Quelle France dans 10, 20, 50 ans? Nous avons auditionné plus de 400 personnalités parmi les plus qualifiées du pays et dans tous les domaines. L'heure est à une mobilisation générale pour éviter le pire et construire le meilleur. Faire réussir la France, 30 réformes majeures et 250 actions urgentes sous la direction de Jacques Attali aux éditions Fayard.
Chez Proust, c'est toute cette semaine d'Entendez-vous l'écho, l'argent est tout sauf absent de l'œuvre de Marcel Proust, qui montre dans ses romans comment les mouvements de la bourse font et défont les fortunes. L'écrivain était lui-même passionné par la finance et une partie de sa richesse s'est envolée en mauvais placements. Par ailleurs obsessionnel, Proust était aussi un héritier un peu trop prodigue. Alors quelle valeur sentimentale, littéraire accordait-il à l'argent? C'est la question qui va nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour évoquer Proust, la rente perdue et l'argent retrouvé, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Hermant, philosophe, écrivain et auteur de cet ouvrage, Marcel Proust, La vie, le temps, paru chez Actes Sud. Également avec nous, Jacques Le Tertre, président de la Société des hôtels littéraires et spécialiste de la correspondance boursière de Proust. Une émission préparée par les boursicoteurs de l'Écho, Thibaut Moméja, Alié Tovine, Mathilde Tonfourcade et Théo Gengreco. Si un client de Cottard lui demandait « Rencontrez-vous quelquefois les Guermantes ?», c'est de la meilleure foi du monde que le professeur répondait « Peut-être pas justement les Guermantes, je ne sais pas, mais je vois tout ce monde-là chez des amis à moi. Vous avez certainement entendu parler des Verts du Rhin. Ils connaissent tout le monde. Et puis eux, du moins, ce ne sont pas des gens chics des Cathy. Il y a du répondant. On évalue généralement que Madame Verts du Rhin est riche à 35 millions. Dame, 35 millions, c'est un chiffre. Aussi, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. » Vous me parliez de la duchesse de Guermantes. Je vais vous dire la différence. Madame Verts du Rhin, c'est une grande dame. La duchesse de Guermantes est probablement une purée. Vous saisissez bien la nuance, n'est-ce pas? En tout cas, que les Guermantes aillent ou non chez Madame Verts du Rhin, elle reçoit ce qui vaut mieux, les Tcherbatov, les de Forgeville et tutti quanti. Des gens de la plus haute volée, toute la noblesse de France et de Navarre, à qui vous me verriez parler, père à compagnon. Bonjour Michel Hermant et Jacques Le Tertre.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, issu de Sodome et Gomorre, Proust évoque la fortune des Verts du Rhin, mais il ne dira jamais d'où vient leur richesse. Lui-même disposait d'une fortune conséquente, en partie grâce à sa mère qui vient d'une famille de manufacturiers et de commerçants, Michel Hermant.
Oui, Proust est né en 1871 dans une famille de la bourgeoisie fortunée. La fortune venait effectivement, comme vous venez de le dire, en partie de sa mère, mais son père, qui est devenu un médecin spécialiste des questions d'hygiène, conseiller du gouvernement à partir des années 1880, pour toutes justement ces questions, qui sont des questions géopolitiques à l'époque, bien évidemment, était un médecin extrêmement connu.
Qui, vous dites que c'est le Bernard Kouchner de l'époque.
Oui, c'est un peu le Bernard Kouchner de l'époque, effectivement. Hein. Alors peut-être moins du côté de l'humanisme que du côté des questions sanitaires.
Et il a acquis ainsi aussi une fortune importante.
Il a acquis une notoriété, une fortune. Il avait jouissait d'émoluments importants. Si bien que Proust a été élevé dans une famille où on avait de l'argent, mais où on économisait l'argent. En particulier sa mère, qui était très peu dépensière et qui lui reprochait d'ailleurs, lui, d'être absolument tout le contraire. Et ce qui est important, parce que ce qui nous intéresse, c'est effectivement Proust, écrivain, hein, c'est que à la mort de ses parents, en 1903-1905, il va hériter d'une somme importante, placé dans différentes banques, en particulier à la Banque Rothschild, d'environ 6 millions d'euros. Si bien que Proust est un écrivain qui n'a pas vécu de sa plume, comme bien des écrivains le souhaiteraient, l'imagineraient d'ailleurs, hein, mais qui a vécu de ses rentes. Et donc, on peut voir ça comme quelque chose qui lui a facilité la vie. C'est pas tout à fait vrai, parce que dans la société française, et notamment dans le monde des lettres, où l'argent n'est pas toujours très très bien considéré, l'objet de suspicion, eh bien, on a considéré qu'au fond, Proust, notamment quand il va vouloir publier son premier roman, la première partie de son roman qui s'appelle Le Temps Perdu, qui deviendra Du côté de chez Swann, il va se heurter finalement au monde de la République des Lettres, qui considère que au fond, c'est un bourgeois fortuné qui essaye de s'imposer.
Et alors, c'est intéressant de voir qu'effectivement, en tant qu'héritier, en tant que rentier, Marcel Proust est en rupture avec la figure de l'écrivain du 19e siècle qui écrit pour gagner sa vie comme Balzac, Jacques Le Tertre.
Oui, mais à l'inverse, il ressemble totalement à Flaubert. Puisque Flaubert, lui non plus, ne travaillera pas, il vivra d'un héritage. N'était la grosse différence que la fortune de Flaubert est une fortune foncière, alors que la fortune de Proust sera une fortune quasiment totalement en valeur mobilière. Les seules parts qu'il ait dans un immeuble seront cédées très vite, et il aura tout en action et en obligation. D'où il est locataire, d'où l'éternelle peur d'être mis à la rue, et comme en plus il est parano, il aura l'idée qu'il n'aura jamais de quoi finir l'année. Et c'est les seuls moments où il se demande s'il ne doit pas chercher un emploi.
Mais alors il s'inquiète alors même qu'il est extrêmement dépensier et qu'il peut vivre a priori sans travailler, alors même que son père le destinait à une toute autre profession, à une profession tout court d'ailleurs, la diplomatie, en tout cas une autre profession que celle d'écrivain. Et dans un premier temps, Michel Hermant, il a suivi la vie de son père.
Oui, il a suivi la vie de son père en ce sens qu'il a accepté de faire une licence de droit. Il a suivi également une formation à Sciences Po, ce qu'on appelle aujourd'hui Sciences Po, dans la section diplomatie. Et il a fait ça pour satisfaire aux exigences de son père, qui ensuite lui a permis, en quelque sorte, de faire une licence de lettres et de philosophie. Mais dès qu'il a acquis ses diplômes, il s'est empressé de ne pas trouver d'emploi, si je puis dire. Ce qu'il souhaitait, ce qu'il a souhaité assez jeune, hein, entre déjà à 25-30 ans, ce qu'il souhaitait, c'est avoir, au fond, une rubrique dans la presse littéraire. Et il ne l'aura jamais. Il ne l'aura jamais, tout au long de sa vie. Il a toujours été repoussé, ce qui n'a pas empêché d'écrire de temps en temps.
Mais il écrit plutôt sur... c'est une chronique mondaine.
C'est une chronique mondaine qu'on lui octroie, effectivement, de temps en temps, le Figaro ou dans le Gaulois, ou éventuellement dans le Journal des Débats aussi, ça peut arriver. Il gagne un petit peu d'argent et il en est très content. Il montre ainsi à sa famille qu'il est capable, en quelque sorte, de gagner sa vie. Enfin, il gagne très très peu d'argent. Mais justement, on vient d'évoquer Flaubert, il y a une différence importante dans l'écriture, du point de vue de l'argent. C'est que Proust est quelqu'un qui ne moralise absolument pas l'argent. Ni dans sa vie personnelle, ni d'ailleurs dans les représentations qu'il en donne, dans l'usage qu'il en fait, dans la manière dont il en dote ses personnages. Alors que Flaubert, c'est un tout petit peu différent. Flaubert, c'est un tout petit peu différent. Par exemple, il laisse entendre que Emma Bovary est un peu la victime de ses endettements. Alors, je sais bien que l'ironie flaubertienne permet des interprétations un peu multiples. Hein. Mais c'est ça qui est important, il me semble, hein, aussi bien pour la vie que pour l'œuvre. Proust ne moralise pas l'argent. Dans un pays qui, au fond, tient parfois l'argent en suspicion.
Alors, on va revenir sur cette dimension qui est fondamentale, en effet. Mais d'abord, Jacques Le Tertre, il faut dire que de sa mère, Proust hérite des biens matériels, on l'a dit, mais aussi la passion pour la bourse.
À la limite, ce qu'il a hérité surtout de sa mère, c'est une grande culture, le goût des livres. Sa mère lui apportera ça. Sa mère lui apportera quasiment le même portefeuille boursier que celui qu'elle avait hérité elle-même. Donc on est dans une situation de grande stabilité. Sa mère est peu dépensière et très raisonnable.
Mais elle joue en bourse.
Elle suit les conseils avisés qu'on lui donne pour investir en bourse.
Et cela grâce à
une... la différence avec Proust, qui lui, on peut dire qu'il joue.
Ouais.
Il joue comme il va au casino, il joue parce que il, c'est le pire investisseur possible. On en reparlera, mais...
Et il joue des sommes importantes, notamment au casino. Je crois qu'en 1910, il laisse de grosses sommes sur le tapis vert du casino de Cabourg.
Il joue au baccarat. Il aime beaucoup le baccarat. C'est un jeu qui l'excite infiniment. Et il a une vision de la bourse qui est très éloignée de l'économie réelle. Ses choix n'ont rien à voir avec l'économie réelle. Et ce qu'il veut, c'est le frisson. On dit en général, tout ce qu'il faisait, il faut faire exactement l'inverse. Il achetait quand le marché montait et il vendait quand le marché baissait. Il s'endettait pour acheter des actions. Enfin, vous pouvez remplir toutes les cases possibles du mauvais investisseur. Proust les a remplis toutes.
L'anti-manuel de la finance. Et pourtant, il prend régulièrement conseil auprès de son entourage, comme dans cette lettre adressée à son cousin et conseiller financier, Lionel Hausser, datée du lundi 3 août 1914. Mon cher Lionel, je te remercie infiniment de ta lettre. Je sais que sa douceur est sans indulgence, mais que sa rudesse n'est pas sans amitié. Je n'ai pas très bien compris, n'étant pas très expert en choses de la bourse, ce que tu veux dire par « tiens pour zéro dans ton inventaire les valeurs dont tu es acheteur, et s'il ne te reste pas de quoi vivre, sacrifie-les ». Bien entendu, ne prends pas la peine de m'écrire un commentaire. Dans les terribles jours que nous traversons, tu as autre chose à faire qu'à écrire des lettres et à t'occuper de mes pauvres intérêts, qui, je te jure, me semblent bien dénués d'importance, quand je pense que des millions d'hommes vont être massacrés dans une guerre des mondes comparable à celle de Wells, parce qu'il est avantageux à l'empereur d'Autriche d'avoir un débouché sur la mer Noire. Je viens de conduire mon frère, qui partait pour Verdun à minuit. Il a tenu à être affecté à la frontière même. Pour revenir à mes valeurs, inutile de me répondre, d'autant plus que le marché est suspendu. Quand il reprendra, je te demanderai ce que je dois en faire et si ta formule signifiait « n'espérer aucun relèvement et les vendre à n'importe quel prix ». Nous poursuivons notre discussion sur Proust et l'argent sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie de Michel Hermant et de Jacques Le Tertre. Alors que vous inspire cette lettre, Jacques Le Tertre? Qu'est-ce qu'elle nous dit du rapport de Proust à la bourse, de son inculture économique, alors même qu'il lit la presse financière tous les jours, ainsi que les pages du Figaro?
Il est surinformé. Il lit trois journaux à connotation boursière tous les matins. Demande l'avis à toute une série de gens. En général, il écoute l'avis le moins inspiré. Et il ne comprend pas la mécanique boursière. Sa chance gigantesque, parce qu'il a beaucoup de chance, ce qui fait qu'à la fin, on en reparlera, il finira avec la même fortune que celle dont il avait hérité. Après un gros passage à vide au moment du déclenchement de la guerre, mais il finira dans un état de fortune tout à fait satisfaisant. Mais la chance qu'il a, c'est d'avoir deux amis merveilleux, son cousin Lionel Hausser dont vous avez parlé, et Horace Finali qui est le directeur général de la Banque de Paris, l'ancêtre de l'actuel BNP Paribas.
Qui était avec lui au lycée Condorcet à Paris. Effectivement, ce sont des amis, cousins qui lui donnent de bons conseils parce qu'il y a dans sa famille des coulissiers. C'est une profession parallèle à celle des agents de change, Jacques Le Tertre.
C'est une profession qui a disparu en 61 lors de l'unification des marchés. C'était des gens qui étaient spécialisés dans les titres étrangers, qui étaient spécialisés dans les obligations, et qui cotait quasiment 24 heures sur 24. Il y avait une coulisse de la nuit qui était intéressante et dans laquelle il y avait beaucoup de spéculation. Des membres de la famille de Proust étaient coulissiers. Le coulissier, c'est un peu moins noble que l'agent de change.
Donc une passion de Proust pour la bourse et en même temps une incompétence crasse en la matière, Michel Hermant.
Oui, je crois que ce que l'on peut dire, c'est que le rapport de Proust à l'argent, c'est un rapport affectif. Un rapport affectif. D'ailleurs, on voit bien, moi j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que l'argent facilite les choses, mais que l'argent n'est pas une valeur. ce qui est une valeur, véritablement, une valeur pour Proust dans sa vie, dans ses liens intimes, ses liens sociaux, ses liens amicaux. Et on va retrouver tout ça dans l'œuvre. Ce qui est une valeur, au fond, c'est de, en quelque sorte, d'arriver à entretenir avec autrui une relation à la fois de proximité et de distance. Et l'argent s'y prête parfaitement. La lettre à Lionel Hozer, c'est tout à fait ça. Et je fais un parallèle, il est peut-être un petit peu osé, finalement, avec la manière dont Proust envisage ses relations amoureuses et dont on peut voir la manière dont elles sont transposées dans le roman La recherche du temps perdu. En quelque sorte, l'argent, comme l'amour, c'est toujours quelque chose qui manque. Même quand l'argent ne lui manque pas, parce qu'effectivement, on en parlera peut-être, à la veille de la guerre, il a perdu à peu près un tiers de sa fortune, mais les marchés ne sont plus cotés, donc là, c'est aussi une certaine chance pour lui. Lionel Hozer va lui permettre de se rétablir, mais il n'est pas ruiné.
Mais il le dit en plaisantant à moitié. Voilà.
En plaisantant à moitié, mais c'est une plaisanterie, il rit un petit peu jaune, si vous voulez. Hein. L'argent qui lui manque à ce moment-là, c'est un petit peu comme si la vie devenait beaucoup plus fragile, alors qu'il a encore de quoi se retourner.
Vous parlez de ce rapport affectif à l'argent, et en effet, Jacques Le Tertre, Proust choisit parfois ses investissements en fonction de la beauté des titres ou de leur sonorité.
Ah ben d'abord, même s'il n'en faisait pas collection, il est ce qu'on appellerait aujourd'hui un scripophile, c'est-à-dire il adore collectionner et choisir un titre en fonction de la beauté physique du titre. Il y a une description dans la recherche du titre de la Compagnie Générale des Eaux.
Que l'on a entendu hier.
Donc c'est vraiment un élément qui compte pour lui, la beauté physique. Il y a la beauté du nom. Il investit quand il entend parler des tramways de Mexico ou du Pacific Railway. Tous ces noms-là lui plaisent. Il investira dans des mines en Russie, ce qui n'était pas une merveilleuse idée à la veille de la Révolution de 17. Il investira parce que le nom de ces mines russes lui plaît.
Et aussi parce que un certain nombre de personnes de son entourage lui donnent de mauvais conseils. Je pense en particulier au duc d'Albufera, qui, parce que c'est un noble, lui semble une personne fiable, Jacques Le Tertre.
Même si à la fin, il finira par écouter Hozer. Mais dans un premier temps, que ce soit Albufera, que ce soit Namias, enfin il y a toute une série de gens qui vont lui donner les pires conseils, et comme il ne comprend pas bien...
Et qu'il est très influençable...
Typique de son problème, il préfère vendre des titres qui rapportent du 3% mais qui sont très stables, pour prendre des titres qui rapportent du 8-9% mais qui par définition sont beaucoup plus risqués. Et dès que on va s'approcher de la guerre, parce que il y a des événements dans les années 10 à 14 qui sont des événements annonciateurs de la guerre, là il va perdre tout. L'éclairage, il y a un mot aujourd'hui qui est à la mode, qui est de considérer que quelqu'un souffre de phobie administrative. Eh bien Proust en souffre vraiment, il n'ouvre pas son courrier, et quand il envoie des instructions à son coulissier, c'est des instructions qui durent 8 pages, et où le coulissier ne sait pas à la fin si Proust veut acheter, vendre ou reporter la position.
Et ainsi, il y a non seulement il fait de mauvais placements, Michel Herman, mais il est aussi pathologiquement dépensier. Alors, quelle forme est-ce que cela prend ?
Ben, tout d'abord, il ne répugnait pas à payer pour ses plaisirs. Non. Allons au-delà, d'ailleurs, de ce qui apparaît comme des relations vénales. L'argent lui sert à nouer, à dénouer les relations, les liens humains, les liens sociaux qu'il entretient avec les autres.
Il demande même à son grand-père de l'argent pour pouvoir se rendre au bordel.
Oui, alors ça c'est une anecdote. Effectivement, à l'âge de 17 ans, je crois, comme ça se faisait dans les familles bourgeoises de l'époque, hein, son père d'ailleurs un petit peu inquiet de ses habitudes d'onanisme, bon, et il décide de l'envoyer se faire déniaiser, en quelque sorte. Bon, et donc la chose se passe assez mal. Il est nerveux. Il est si bien que ça se passe pas très bien. Et puis il se tient de façon maladroite. Et il finit par casser un vase de chambre, je crois. Et donc il faut qu'il rembourse
les 10 francs de la prostituée et les 3 francs du pot de chambre. Mais c'est étonnant cette liberté de ton qu'il utilise avec son grand-père.
Avec son grand-père.
Il dit je n'y suis pas arrivé. Il me faut de l'argent pour y retourner.
Il me faut de l'argent et si on peut dire. Il ne doit pas arriver que l'on n'arrive pas à baiser une deuxième fois. Quoi.
Bon, ça montre qu'il vient d'une famille quand même très libérale.
Commencer. Voilà, très libérale. C'est un fiasco pour commencer. Donc il avait avec son grand-père, son petit-grand-père aussi, comme il l'appelait, une relation extrêmement affective. Et donc là, il demande de l'argent, ce qui montre bien d'ailleurs que... Ben, il avait sûrement pas un argent de poche énorme. Hein. Et ça montre aussi, bon, c'est un sujet un petit peu différent. Vous excuserez mon esprit d'escalier, mais ça montre aussi que porter une attention aux femmes. Et que sa sexualité, est sans doute beaucoup plus complexe qu'on ne le dit en général. Voilà, donc ça c'est effectivement amusant. Donc il ne répugnait pas à payer pour ses plaisirs.
Et pour ses relations affectives plus largement.
Si bien que il y a deux moments importants. Il y a le fameux Albufera, son chauffeur, dont il est extrêmement épris, qu'il accueille chez lui avec sa femme en 1913.
C'est Agostinelli. C'est cela.
Albufera, excuse-moi. Non, ça commence de la même manière. Alfred Agostinelli. Et donc, il en est très très épris et il répond aux demandes incessantes d'argent d'Agostinelli. Bon. Et puis, après-guerre, un jeune groom du Ritz, Henri Rochat, c'est exactement la même chose, il loge sous son toit et il lui octroie toutes les demandes d'argent que celui-ci lui fait.
Et on retrouve cela, pardon de vous couper, dans la recherche du temps perdu, ce rapport affectif à l'argent. Je voudrais vous faire entendre un extrait d'Albertine disparue, le 6e tome d'À la recherche du temps perdu. À l'horreur de son mensonge, à la jalousie pour l'inconnu, s'ajoutait la douleur qu'elle se fût laissée ainsi faire des cadeaux. Je lui en faisais plus, il est vrai, mais une femme que nous entretenons ne nous semble pas une femme entretenue tant que nous ne savons pas qu'elle l'est par d'autres. Et pourtant, puisque je n'avais cessé de dépenser pour elle tant d'argent, je l'avais prise malgré cette bassesse morale. Cette bassesse, je l'avais maintenue en elle. Je l'avais peut-être accrue, peut-être créée. Puis, comme nous avons le don d'inventer des contes pour bercer notre douleur, comme nous arrivons, quand nous mourons de faim, à nous persuader qu'un inconnu va nous laisser une fortune de 100 millions, j'imaginais Albertine dans mes bras, m'expliquant d'un mot que c'était à cause de la ressemblance de la fabrication qu'elle avait acheté l'autre bague, que c'était elle qui avait fait mettre ses initiales. Michel Herman, en quoi cet extrait est-il emblématique du rapport de Proust à l'argent? Ce que l'on voit, c'est que les cadeaux sont pour lui une manière de capter l'attention et d'obtenir l'amour des autres.
Oui, tout à fait. Là, l'extrait est tout à fait passionnant. Hein. Et il vient brouiller, finalement, le bel équilibre que Proust essaye de construire avec autrui, notamment dans la relation amoureuse. Parce que ce bel équilibre, c'est, au fond, essayer d'obtenir la reconnaissance de l'autre, disons dans ce cas-là, l'amour de l'autre, mais comme si de rien n'était, en quelque sorte. Et là, qu'est-ce qui va troubler l'affaire? C'est la jalousie. C'est la jalousie qui, d'un seul coup, vient bouleverser cette sorte de tranquillité d'âme que l'argent donné à une femme qu'on entretient procure. Et d'un seul coup, en quelque sorte, la bonne distance est troublée. Et la bonne distance est troublée parce que le sentiment amoureux revient. Chez Proust, il faut bien se souvenir d'une chose, c'est que on ne tombe pas amoureux par coup de foudre, on tombe toujours amoureux par coup d'angoisse. Et lorsque l'amour s'installe, qu'on établit une relation qui paraît qui paraît agréable, enfin une relation qui paraît réciproque, eh bien on s'ennuie. Et pour retrouver le sentiment amoureux, eh bien, il faut qu'un moment d'angoisse revienne. Et là, c'est un moment d'angoisse. Et donc, l'argent, vous voyez, l'argent sert à construire un équilibre affectif.
Jacques Le Tertre, sur ce rapport entre l'amour et l'argent chez Proust.
Mais il est évident que c'est ça aussi qui posera des problèmes avec ses conseils, que ce soit Finali ou Auser. La brouille avec Auser se fera le jour où Auser va découvrir l'argent qui a été retiré pour faire des cadeaux à Rochat. Et dans la correspondance qui n'est pas encore publiée, qui est inédite, qu'il y a entre Proust et Finali, Finali va servir pour exfiltrer Rochat et l'envoyer en Amérique du Sud dans une filiale de la Banque de Paris et pour débarrasser Proust. À chaque fois, le lien argent, bourse et relation amoureuse joue à plein.
Parce que parfois, ce sont des cadeaux démesurés. Il achète, je crois, à Agostinelli un petit avion, de la même façon que le narrateur, dans À la recherche du temps perdu, veut acheter un yacht à Albertine. Oui. Et ce sont à la fois des cadeaux envers ses amis, ses amants, mais ce sont aussi des pourboires démesurés qu'il peut laisser au restaurant, Michel Herman.
Vous avez tout à fait raison de mettre en rapport, bien que financièrement, c'est pas la même somme, mais les pourboires, parfois mirifiques, et puis des cadeaux démesurés, comme la Rolls pour Albertine, ou l'avion pour Agostinelli. Parce que ce qui compte, c'est pas tellement la masse financière engagée. Ce qui compte, c'est le lien créé, en quelque sorte. Alors évidemment, là, les cadeaux sont démesurés. On a l'impression qu'il veut acheter l'amour, acheter le retour d'Albertine ou le retour d'Agostinelli, en se prêtant, disons, à leur désir, en entrant un peu dans leur désir. C'est la réaction d'un homme tout d'un coup, qui sent le manque total d'amour. Il est prêt à, si vous voulez, tout comme il ne compte pas. Sauf quand il a des pertes extrêmement importantes à la bourse. Autrement, il fait des placements un petit peu absurdes. Bon, ben, il perd, il gagne. Bon, on dirait qu'il ne compte pas, il ne décompte pas. Mais il y a des moments où on dirait que le sol s'esquive sous ses pieds et que l'argent, d'un seul coup, devient... Ça n'a pas d'importance, en quelque sorte. Vous voyez, là, il y a absolument aucun rapport moral à l'argent. Ce que l'on trouve à l'époque, moi, je me souviens je me souviens d'avoir lu de Georg Simmel la philosophie de l'argent, qui paraît, je crois, dans ces années-là, d'ailleurs, au début du XXe siècle, et qui montre que l'argent est devenu une valeur en soi. Finalement, c'est plus une valeur d'échange, hein, c'est une valeur en soi.
Il s'agit de paraître.
Il s'agit
l'argent
de paraître,
comme ostentation.
D'accumuler et de paraître. Bon. Et ce qui est intéressant chez Proust, même s'il a essayé de retrouver sa fortune, une partie de sa fortune perdue, c'est qu'il n'y a pas du tout le sens de l'accumulation ni de la dépense.
Et en cela, il est peut-être en contradiction avec le capitalisme et ce sens de l'accumulation qui est en train de se développer dans ce 19e siècle.
Il est absolument en contradiction avec le capitalisme du 19e siècle. Et si vous voulez, en un mot, on viendra peut-être tout à l'heure, son roman n'est pas du tout un roman marxien où on peut voir les changements de la société à cause du capitalisme. C'est un roman hegelien, c'est un roman qui s'intéresse à la reconnaissance.
Et alors, quand il n'est pas possible d'acheter l'amour de l'autre, au moins les déceptions amoureuses peuvent-elles devenir une matière romanesque, Jacques Le Tertre? C'est ce que l'on observe chez l'écrivain Bergotte, personnage fictionnel dans La Recherche, mais aussi chez Proust lui-même.
De toute manière, on peut toujours partir du principe que toutes les expériences douloureuses que Proust a eues dans sa vie ont été utiles, puisqu'elles ont servi à bâtir la recherche. L'argent qu'il a perdu pendant cette période terrible de 1910 à 1915, il n'a pas été perdu, en fait, puisque ça a donné matière à un des ouvrages les plus importants de la littérature française.
Mais ce qui est intriguant, c'est qu'il fait vraiment le calcul. Il dit dans La Recherche, alors c'est le narrateur qui le dit, mais il dit économiquement, ce raisonnement était absurde, c'est-à-dire d'estimer que cet argent n'est pas perdu, cet argent dépensé en relations amoureuses qui n'ont pas abouti. Mais sans doute trouvait-il quelque agrément à transmuter ainsi l'or en caresses et les caresses en or. C'est Marcel Proust lui-même qui parle finalement ici, Michel Herman.
Oui, absolument. Moi, un petit peu ce que je suggérais tout à l'heure, c'est que le rapport à l'argent, c'est comme le rapport à l'amour. quelque sorte. Et comme Jacques Le Tertre vient de le dire, les expériences douloureuses qu'a fait Proust ont nourri son roman, et elles ont même nécessaire à son roman. Il y a même cette phrase que Proust écrit un jour, une de ses correspondantes, en 1917, si je me souviens bien, donc au moment où il est véritablement en train d'achever, enfin, son grand roman, il dit je tiens à mes peines, je tiens à mes peines. Et les peines de cœur, comme les peines d'argent, lui ont servi en quelque sorte à bâtir son roman. Vous avez parfaitement raison.
Alors, dans les années 1910, Proust a dilapidé une bonne partie de sa fortune, mais la reconnaissance littéraire tant attendue va peut-être lui permettre de renouer dans une certaine mesure avec la richesse, sans compter seulement sur son héritage. Justement, les Scorpions se sont intéressés à la question de l'héritage dans leur chanson « Inheritance ». Les Scorpions sur France Culture, d'entendez-vous l'écho. Proust, un héritier un peu trop prodigue, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Hermant et de Jacques Le Tertre, une émission réalisée par Somaïa Dabèche et mise en onde par Audrey Guélil. Proust a hérité de ses parents une fortune importante, on l'a dit, ainsi il y a les revenus issus de son patrimoine, et ce, plus tard, issus de son travail d'écrivain, mais pendant longtemps, Jacques Le Tertre, Proust ne parvient pas à se faire éditer.
Si, c'est déjà fait éditer une fois au milieu des années 1890, et ça a été un four total. Il a dû ravaler l'essentiel de ce qui avait été édité.
Les plaisirs et les jours, c'est le nom de son roman.
Donc ça, c'est un désastre complet.
Il ne se vend qu'à quelques dizaines d'exemplaires, je crois.
Voilà. Et les derniers se vendront plus tard. On a toujours dit qu'il s'en était vendu encore au moment où il a eu le Goncourt en 1919. Donc, clairement, il ne pouvait pas compter sur ça.
Mais il a des difficultés à faire publier À la recherche du temps perdu, le premier tome du côté.
Toutes les tentatives qu'il fait vont être des échecs. Il va faire appel au maximum de relations possibles, et il en a beaucoup. Et personne ne veut l'éditer. Et finalement, il sera, mais l'histoire est tellement connue, il sera édité à compte d'auteur par Grasset, ceux qui ont la chance d'être les propriétaires de cette édition originale, savent qu'à la fin, Grasset l'a obligé à mettre de la publicité pour des lignes de chemin de fer, pour des voyages d'été, parce que c'était un moyen d'amortir un peu ce qui allait être une très grosse dépense.
Mais le fait qu'il publie ce premier tome du côté de chez Swann à compte d'auteur, cela lui attire un certain nombre de railleries de la part de la sphère littéraire parisienne, Michel Herrmann ?
Alors, non pas tant que ça, car à l'époque, le compte d'auteur n'était pas si rare que cela. Mais si vous voulez, j'ajouterai une chose, c'est qu'effectivement, comme Jacques Leuthert vient de le dire, il a été refusé par trois éditeurs. D'ailleurs, les derniers, le dernier à la veille de Noël 1912, comme cadeau de Noël, on peut faire mieux. Et il était notamment arrivé à entrer en relation avec le comptoir de l'ANRF. Hein, l'ANRF, toute jeune revue, avait un comptoir d'édition.
Le comptoir d'édition créé en 1911.
Créé en 1911 et dans lequel siégeaient Gide, Schomberger, le jeune Jacques Rivière, qui aura un rôle important. Bien. Et
ils sont passés à côté de l'œuvre de Proust dans un premier temps.
Oui, alors ils sont passés à côté de l'œuvre de Proust, mais ce que Proust a fait, si vous voulez, du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il a proposé de payer lui-même les frais d'édition. Comme un rentier, un homme riche pour qui, encore une fois, les masses d'argent n'ont pas une grande importance, ne représentent pas une véritable valeur en soi. Et ça a été très très mal reçu, bien évidemment.
C'est cela qui a été largement critiqué par le monde de l'édition et des écrivains ?
Alors, les éditeurs à qui il a proposé comme ça, de payer des frais d'édition, notamment la NRF, ont considéré ça comme une sorte de coup de force pour se faire véritablement éditer. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui a amené le refus. Mais là aussi une petite anecdote si vous le permettez, Gide s'est raconté après, écrit une lettre à Proust pour s'excuser, raconter que c'était lui qui était responsable, c'est pas du tout lui qui était responsable. Gide a dit ça tout simplement pour montrer en quelque sorte qu'il était le chef de file de la NRF, que ses corréligionnaires lui disputaient, parce que Gaston Gallimard qui mettait de l'argent lui disputait aussi. En fait, le responsable c'est sans doute Jacques Copeau, car Proust avait... s'était mis en relation avec Copeau pour publier des extraits dans la NRF revue. Et Jacques Copeau avait hésité et avait entendu dire que Proust était un homme argenté, enfin qui un homme riche, et qu'il serait sans doute intéressant de le faire lanterner pour qu'il mette de l'argent dans la constitution de ce qui va devenir le vieux Colombier. Vous voyez, le rapport à l'argent, là, finalement, l'a totalement desservi. À la fois moralement, mais également pratiquement.
Alors ça lui a desservi, mais tout de même, rapidement, le monde littéraire parisien prend conscience de l'importance de cette œuvre. Le poète Philippe Soupeau s'est souvenu des années plus tard du choc ressenti à la lecture du premier tome de La Recherche. Il n'avait alors que 16 ans.
Quand j'ai reçu, du côté de chez Swann, que m'avait envoyé Marcel Proust, j'ai d'abord été choqué par l'épaisseur du volume et par la finesse de la typographie. Puis j'ai commencé à lire ce livre qui, à cette époque, paraissait absolument insensé. Et je me rends compte que ça a été un choc bouleversant parce que je pénétrais dans un monde où je n'avais jamais pénétré. Et le style de Proust, en 1913, paraissait extrêmement inquiétant, rébarbatif, difficile. Et pourtant, j'ai été pris, j'ai été complètement séduit, presque absorbé par le roman de Proust.
Voilà, l'œuvre de Proust commence à être reconnue, si bien qu'en 1916, Gaston Gallimard le convainc de rejoindre les éditions de la Nouvelle Revue française. Et cela tombe plutôt bien pour lui, Jacques Leuthert, puisque c'est à ce moment-là, comme on l'a évoqué tout à l'heure, que Proust se sent dans une situation de quasi-faillite, ou du moins, il a perdu une partie de sa fortune.
Oui, il faut quand même enlever toute idée selon laquelle tout ça va lui rapporter, au moins dans un premier temps, de l'argent. L'édition de du côté de chez Swann, c'est 1500 exemplaires. Et dans les 1500, il y en a 400 qu'il envoie en cadeau au service de presse. Donc la rentabilité de l'opération, elle est très, très faible. Et quand Gallimard qui est encore la NRF à cette époque, quand la NRF va reprendre les du côté de chez Swann, il restera des exemplaires. Donc dans les 1500, 2000, il y en a toute une série qui n'ont pas été vendues et que Gallimard reprendra. Il n'y a pas d'argent perdu dans cette maison, reprendra en mettant la jaquette de Gallimard sur l'ancienne jaquette de Grasset.
Et quid du deuxième tome, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui paraît en 1919?
Ça, on est dans un univers fondamentalement différent. Le deuxième tome part pas très bien, mais il a le Goncourt. Donc à partir du moment où il a le Goncourt, tout est possible, les ventes s'accélèrent, même si Proust tentera, là encore, lien entre l'argent et l'édition, une édition de luxe, en 50 exemplaires, pour laquelle il va découper les différents brouillons préparatoires qu'il avait utilisés pour écrire les jeunes filles, et il essaye de le vendre, il le proposera à des tas d'amis, et ça va être un deuxième four.
Alors justement, sur le Goncourt que Proust remporte en 1919, je vous propose d'écouter Céleste Albaret, qui était sa servante et qui revient sur cet épisode des années plus tard, dans les années 70.
Comme il était réveillé, alors j'ai dit, ben je vais le voir, c'était rue Hamelin, et je vais le voir et je dis, monsieur, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, vous êtes pris Goncourt. Ah oui, monsieur. Ah, oui, monsieur, vous avez eu le prix Goncourt. Et monsieur Gallimard est dans une excitation terrible. Alors je lui dis, il faut que vous les receviez, c'est absolument urgent. Oh, il me dit, je ne le recevrai pas, je ne peux pas, Céleste. Oh, mais non. Oh, je lui dis, monsieur, quand même. Oh, non, 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 eh bien, dites à monsieur Gallimard que je le remercie infiniment, mais qu'il vienne vers 10 heures.
Qu'il vienne vers 10 heures. Voilà un épisode raconté par Céleste Albaret, qui a peut-être été un petit peu transformé par le temps, Jacques Le Tertre.
Ah ben oui, le temps, il n'y a que 40 ans qui ont passé. Céleste a eu le temps de réécrire l'histoire. L'idée suivant laquelle Proust découvre que c'est le Goncourt qui est donné ce jour-là, qui n'est pas au courant de ce qui se passe, qui n'a rien fait pour l'obtenir, c'est totalement inexact. Il a fait campagne. Il a vraiment fait une campagne très dure, ce que notre ami Lager a raconté très brillamment. Non, Proust n'est pas un amateur quand il s'agit d'obtenir un prix.
Et quel impact ce prix va avoir sur sa vie, Michel Hermant?
Alors, à côté, si vous me permettez, avant de vous répondre, une toute petite précision. Avant-guerre, Proust a vendu à peu près, un tout petit peu moins, 2500 exemplaires de Swann, parce que Grasset a procédé à un nouveau tirage. Mais enfin, ça, financièrement, ça lui a pas rapporté grand-chose. Ça lui a coûté, en revanche, à peu près 12 000 euros, l'équivalent de 12 000 euros. Proust avait fait 5 jeux d'épreuve, donc il a fallu payer ces 5 jeux d'épreuve. Il avait demandé également qu'il y ait des annonces dans la presse. Voilà. Bon. Ensuite, la reconnaissance est vraiment une reconnaissance minime. Il ne sera vraiment reconnu, comme vous le dites, qu'avec le Goncourt en 1919. Et alors, pourquoi cette attitude? Effectivement, ce que Céleste rapporte peut-être prêter à caution, mais par des lettres, on sait que c'est à peu près ça qui s'est passé, c'est que, on vient annoncer à Proust qu'il a le Goncourt, il pensait bien l'avoir, parce que il avait intrigué, mais c'est surtout d'autres qui avaient également intrigué pour lui.
Hein. Mais il était un petit peu,
Léon Daudet.
Il était un petit peu âgé pour avoir ce prix qui
récompensait
plutôt les plus jeunes.
Oui, place aux jeunes, c'est ce qu'on a dit dans la presse. Hein, mais tout simplement parce qu'il avait, entre guillemets, mauvaise réputation pour, disons, la doxa, les bienséances de l'époque. Encore une fois, c'était un mondain, en quelque sorte. Il avait l'image d'un mondain. Et la publication de Swann n'avait pas totalement balayé cela. Et Proust, lorsqu'il reçoit le prix, il a effectivement cette attitude. Il finit par recevoir, je crois, Gaston Gallimard. Léon Daudet a aussi envie d'être reçu. Mais il a ce mot, quand même. Il y a deux mots qui sont importants. Il dit une chose, il dit « ça arrive bien tard ». Ça arrive bien tard. Et puis, il dit aussi une autre chose. Là, c'est du côté le plus lumineux, si vous voulez. Enfin, clair-obscur. C'est la première fois qu'on me donne quelque chose dans ma vie. Donc vous voyez, au fond, à la fois le plaisir et le sens de la précarité de la vie qu'a représenté pour lui ce prix.
Et peut-être que si il met du temps à recevoir Gaston Gallimard, c'est aussi un reste de rancune par rapport aux réticences de Gallimard.
Alors je ne sais pas si à ce moment-là il met un reste de rancune, mais en tous les cas, bien après, Gallimard... alors le livre était tiré à peu près à 6 000 exemplaires. Gallimard va refaire au moins 2 tirages. Alors on peut dire à peu près que dans ces années-là, 1919-1920, il a vendu à peu près peut-être 20 000 exemplaires. Mais le volume suivant, Guermantes, sera tiré à 8 000. Vous voyez, les tirages ne sont pas extrêmement importants.
Mais il touche un pourcentage important.
Mais il touche, que bien des auteurs aimeraient toucher, hein, 19% jusqu'à 3000 et 21% au-delà de 3000. Donc ça lui rapporte effectivement un petit peu d'argent. Et puis pour répondre à votre question sur les liens affectifs avec Gallimard, il va entretenir une correspondance avec lui dans les mois qui suivent. Extrêmement embrouillé, où il fait des tas de reproches à Gallimard, qui sont sûrement pas toujours fondés. Des tas de reproches également sur les paiements de ses droits d'auteur, là aussi qui semble respecter les délais impartis, normalement. Et il y a derrière le fait que, bien sûr, il en veut toujours à la NRF de l'avoir repoussé à la veille de Noël 1912.
Mais on comprend qu'il ne tire pas de revenus considérables de la vente de ses livres. Alors comment est-ce qu'il récupère sa fortune, si je puis dire, Jacques Le Tertre? C'est surtout grâce à son cousin Lionel Hauser et aux conseils qu'il lui prodigue.
Mais déjà, Hauser va pratiquer de manière très simple. Il va déjà lui demander de rembourser ses dettes, parce qu'il empruntait à 8% pour acheter des titres qui lui rapportaient 3%. Il n'y a pas besoin
d'être un génie de la finance pour comprendre que ça ne va pas.
À un moment, il y a un petit décalage. Il multipliait les opérations qui enrichissaient les coulissiers, qui étaient rémunérés, eux, et les remisiers, qui est une autre variété de professionnels de la bourse, et qui le poussaient à acheter, vendre, ce qui fait qu'il dépensait beaucoup d'argent en courtage. Donc déjà ça, il le fait dès le point de départ. Et puis, Hauser réussit à lui faire diminuer son train de vie. Et ça, c'est une véritable révolution.
Donc il commence à dîner chez lui, ce qu'il ne faisait jamais, je crois.
C'est pas la nourriture qui lui a coûté le plus cher dans sa vie. Hein. Il a donné quelques repas importants, mais c'est pas. C'est pas ça qui rapportait. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce que pouvaient rapporter des livres. Il faut toujours avoir présent à l'esprit qu'à cette époque-là, les gens de lettres gagnaient de l'argent au théâtre. Et pas du tout en écrivant des livres. Flaubert aurait tellement aimé faire une carrière d'auteur dramatique, et tous ceux qui gagnaient de grosses fortunes étaient des hommes de théâtre. Proust n'a jamais, enfin, à ma connaissance, je parle sous ton contrôle, Michel, n'a jamais écrit de pièces de théâtre.
Non, jamais. Donc elle a une... Quand il était jeune, une tentative avec des amis, mais ça n'est pas allé très loin.
Donc il diminue son niveau de vie dans les toutes dernières années de sa vie, puisqu'il décède en 1922.
Oui, et puis à partir de ce moment-là, c'est clair qu'il sort de moins en moins. Le nouvel appartement qu'il a ne lui coûte pas très cher. Il a pris un appartement sordide. À partir du moment où il a quitté le boulevard Haussmann, il va... pendant une période de quelques mois chez l'actrice Réjeanne, et puis ensuite il trouve le domicile qui sera son dernier domicile, rue Hamelin. Mais il ne dépense pas beaucoup, il ne va plus jamais en vacances. Les grands déplacements à Cabourg avec 3-4 personnes, les déplacements en voiture, il y en a de moins en moins, et c'est sûr que son train de vie a beaucoup diminué.
C'est aussi lié au progrès de la maladie ?
Je crois, et puis à l'urgente nécessité qu'il ressentait, qu'il fallait qu'il finisse son œuvre. Il savait qu'il était limité dans le temps, et il avait une peur panique de ne pas finir. Alors maintenant, vous pouvez toujours penser que s'il avait vécu plus, il aurait écrit davantage, et changé encore des choses. Mais en restant chez lui, en travaillant tout le temps, il faisait des économies aussi.
Aujourd'hui encore, À la recherche du temps perdu est l'une des œuvres les plus vendues au monde. Jacques Letertre, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment on commence à avoir véritablement des tirages de masse de l'œuvre de Marcel Proust?
En ce qui concerne la France, on peut parler de véritables tirage important qu'à partir du moment où il est en livre de poche, parce qu'avant, il n'est pas à la mode. Le Proust des années 50, vous n'auriez jamais dans les années 50 consacré une émission sur France Culture à Proust.
Donc ce sont les années 70, à partir des années 70?
C'est les années 50 qui sont le début, grâce au travail fait en France et aux États-Unis sur ce sujet, et à partir des années 60-70, où là, véritablement, ça explose, pour arriver au phénomène que nous connaissons aujourd'hui.
7 millions d'exemplaires des livres de Proust en langue française vendus en 2020.
C'est ça. Donc on est... Alors, je n'ai jamais dit 7 millions lus.
Oui, bien sûr, c'est important de le préciser. Et puis, il faut dire évoquer aussi cette édition originale de Du côté de chez Swann qui a été adjugée à 1,51 million d'euros chez Drouot en 2018. C'était un record pour une œuvre originale en français. Et Proust est ainsi passé devant Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Michel Herman, un dernier mot peut-être sur le rapport de Marcel Proust à l'argent et sur la façon dont cette conception a infusé son œuvre.
Écoutez, le rapport de Proust à l'argent, c'est un rapport utilitaire et un rapport affectif, pour résumer un peu ce que nous avons dit dans cette émission. Mais ce que j'aimerais ajouter pour l'œuvre, même si nous ne pouvons pas en traiter très longtemps, c'est que les acteurs qui pourraient être à l'origine de la mise en scène ou de la mise en œuvre de l'argent dans le roman, ne le font pas. Les Verdurin, dont on a dit tout à l'heure qu'ils possédaient une fortune d'environ 30 millions, l'équivalent de 30 millions d'euros, on ne sait pas d'où elle vient et on ne sait pas comment ils l'utilisent. Et les Guermantes ont à peu près la même fortune, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du roman? Madame Verdurin devient princesse de Guermantes. Pour aller très vite, la bourgeoisie, finalement, investit les lieux de l'aristocratie. Moi, je le dirais en d'autres termes, le clan, parce que le clan, c'est le clan bourgeois, investit la caste. Bon. Donc, en un mot, si vous voulez, l'argent cherche à posséder. L'argent permet de posséder. Et toute l'histoire du roman... C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de valeurs symboliques qui permettent de dominer. C'est tout à fait différent. Donc, en un sens, l'argent a dans l'œuvre une fonction relativement secondaire.
Secondaire et pourtant passionnante, comme on l'a compris tout au long de cette émission, tant il semble que pour Proust, ça a eu un sens dans sa vie affective notamment. Un grand merci à tous les deux, à Michel Herman, et Jacques Letertre de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Michel Herman, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Marcel Proust, La vie, le temps, paru chez Actes Sud. Et Jacques Letertre, je rappelle que vous êtes présidente de la Société des hôtels littéraires. Merci.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver votre chronique quotidienne, le pourquoi du comment. Cette semaine, c'est avec Mathilde Dupré.
Comment fonctionne le marché carbone européen? En économie de l'environnement, le principe du pollueur-payeur vise à garantir que des atteintes à l'environnement ou à la santé causées par une activité se reflètent dans son coût. La tarification du carbone est la mise en œuvre de ce principe pour les émissions de gaz à effet de serre. Selon les économistes, une bonne tarification peut permettre d'atteindre plusieurs objectifs, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre et générer des revenus pour des mesures climatiques. Cette tarification peut prendre plusieurs formes. Celle d'une taxe sur le carbone, qui correspond, nous dit Roger Guenry du Collège de France, à une politique de prix, ou celle d'une obligation d'acheter des permis de polluer. On parle alors de système de plafonnement et d'échange ou de système d'échange de droits d'émission. Et il s'agit là plutôt d'une politique de quantité. Sur le papier, un système de permis de polluer peut paraître plus ambitieux car il permet en théorie de définir un plafond d'émission à ne pas dépasser, Mais nous verrons que dans la pratique, c'est loin d'être aussi simple. Enfin, il existe une autre voie qui reste encore trop peu prisée par les économistes, celle des normes et de la réglementation. Au sein de l'Union européenne, nous avons mis en place plusieurs outils complémentaires pour réduire les émissions globales de gaz à effet de serre. Mais c'est du système d'échange de quotas d'émissions, parfois appelé le marché carbone européen, dont je vais vous parler maintenant. Opérationnel depuis 2005, il s'applique jusqu'à présent principalement pour l'électricité, l'industrie et l'aviation. En pratique, il couvre quelque 11 000 installations fixes, ainsi que les vols intra-européens. Cela représente un peu moins de la moitié des émissions territoriales de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Comment est-ce qu'il fonctionne concrètement ? L'Union européenne a défini un plafond d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser et qui diminue progressivement pour respecter une trajectoire de réduction des émissions. Les producteurs européens doivent ainsi acheter des quotas d'émissions, c'est-à-dire des droits à polluer, qu'ils peuvent ensuite échanger sur un marché carbone. Ce mécanisme est censé les inciter à investir dans la transition et stimuler les innovations propres. Mais le marché carbone n'a pas fonctionné de manière satisfaisante, car sa mise en place ne s'est faite qu'au prix de concessions majeures accordées aux opérateurs. Pour commencer, le plafond global des émissions de carbone a été supérieur aux émissions des installations couvertes par le dispositif depuis 2009. Avec la crise économique de 2008, la demande de quotas d'émissions s'est en effet effondrée et a créé un excédent géant sur le marché, ce qui a permis de maintenir le prix du carbone à un niveau extrêmement bas pendant 10 ans. Pour résoudre ce problème, une réserve a été établie en 2018 afin de retirer du marché les quotas excédentaires. Si elle s'est révélée relativement efficace pour soutenir le prix du carbone, nombre d'observateurs jugent le dispositif inadapté pour traiter les excédents futurs, liés par exemple à la récession économique engendrée par la pandémie ou aux fermetures planifiées des centrales à charbon. Ensuite, des quotas gratuits ont été distribués massivement aux secteurs dits exposés au risque de fuite de carbone, c'est-à-dire des délocalisations vers des pays tiers moins disants environnementalement, pour les protéger. Bien que l'achat de quotas soit la règle par défaut, des quotas gratuits ont ainsi été distribués pour 95% des émissions industrielles et environ la moitié des émissions de l'aviation. C'est en partie pourquoi les émissions des installations industrielles continue de stagner et celle de l'aviation ne cesse d'augmenter. Enfin, il n'existe pas d'obligation européenne harmonisée d'utiliser les revenus de la mise aux enchères des quotas pour financer la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne, qui est précisément en train de réviser le fonctionnement de son marché carbone, parviendra-t-elle à combler ses lacunes ? Le chantier est immense et les propositions qui sont sur la table ne sont pas toutes à la hauteur de l'enjeu. En outre, la Commission propose la création d'un nouveau marché carbone européen pour les carburants et le chauffage à partir de 2026, qui pourrait toucher de plein fouet les ménages. Pas sûr que les États membres et les eurodéputés, échaudés par l'épisode français des Gilets jaunes, laissent faire. Nobody feels the pain behind the love you show. Nobody feels the burden that is yours alone. If when the morning comes, you're not with me, I know that you'll return with destiny. Only you can truly understand the measure of a hero. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. On se quitte avec le dernier titre de FKA Twigs, Measure of a Man. Demain, nous recevons un bédéiste, Étienne Davodeau, pour parler de la place de l'économie dans son œuvre. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur l'appli Radio France et aussi sur le podcast exceptionnel que France Culture dédie à Proust à l'occasion du centenaire de sa mort. Et puis France Culture et Arte vous accueillent le lundi 29 novembre à la Maison de la Radio pour le festival Et Maintenant, consacré aux idées de demain. L'enregistrement d'Entendez-vous l'écho aura lieu à 9h et sera ensuite diffusé à 14h, son horaire habituel. On a hâte de vous y retrouver.